Chapitre 2, versets 1 à 4, citation de l'Écriture. Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas retourner auprès de vous avec de la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui est-ce donc qui me réjouit, sinon celui qui est attristé par moi? Et j'ai écrit ceci même, afin que, quand j'arriverai, je n'aie pas de tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir, ayant cette confiance à l'égard de vous tous, que ma joie est celle de vous tous. Car je vous ai écrit dans une grande affliction et avec serrement de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. Fin de citation. Poursuivant le sujet des derniers versets du chapitre 1, l'apôtre exprime la crainte que, s'il les avait visités une seconde fois avant d'avoir appris l'effet de sa première lettre, cela leur aurait seulement causé de la tristesse. Normalement, nous devrions nous attendre à trouver de la joie de la part des saints, tout spécialement ceux auxquels nous avons pu être en bénédiction spirituellement, comme l'apôtre pour les Corinthiens. Il écrit donc cette seconde épître afin que soit éliminée toute source de nuages entre lui et ses croyants. C'était en effet avec une vraie angoisse et une vraie détresse de cœur qu'il avait écrit sa première épître, une lettre arrosée de beaucoup de larmes. S'il avait dû s'occuper du péché au milieu d'eux, ce n'avait pas été avec un quelconque esprit judiciaire froid qui aurait mis le tort à nu, aurait indiqué la bonne manière de s'en occuper et aurait ensuite délaissé la question. Le fait de ne pas être revenu vers eux pouvait conduire à cette conclusion erronée. Mais il leur écrit pour leur assurer que derrière sa première lettre, il y avait une grande affliction et un grand serrement de cœur, et derrière la peine qu'il éprouvait, il y avait un profond amour pour eux. Versets 5 à 11. Citation de l'Écriture. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais en quelque sorte, afin que je ne vous surcharge pas, c'est vous tous. Il suffit pour un tel homme, de cette punition qui lui a été infligée par le grand nombre, de sorte qu'au contraire vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. Car moi aussi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous dans la personne de Christ, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Fin de citation. En outre, cet esprit d'amour qui avait animé l'apôtre en écrivant sa première lettre, il voudrait que l'assemblée à Corinthe en montre un semblable envers le coupable dont il s'était occupé dans l'obéissance aux directions apostoliques. Dans leur zèle à s'occuper du mal, ils ne devaient pas négliger l'amour et la grâce envers le coupable qui avait donné des signes d'une vraie repentance. Paul écrivait cette seconde épître dans le but de les assurer de son amour et d'éveiller le leur. En effet, la première épître les avait testés quant à leur amour par obéissance aux directions de l'apôtre. S'ils prouvaient leur amour par obéissance, la confiance envers eux serait rétablie, de telle sorte qu'ils pourraient dire « À celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. » De cette façon, ils agiraient de la part de l'apôtre, et lui, pareillement, en pardonnant les torts commis contre lui, représenterait Christ et mettrait en pratique sa propre exhortation qui figure dans une autre épître « Vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Colossiens 3, verset 13. En cultivant ainsi un esprit de saint amour dans son propre cœur et dans le cœur des autres, l'apôtre contrecarrait les efforts de Satan pour semer la discorde parmi les saints. Satan le fait non pas simplement en introduisant le mal parmi eux, mais en les amenant à traiter le mal d'une mauvaise manière et dans un mauvais esprit. Combien il est fréquent que les saints soient d'un même esprit quant au mal, et pourtant la discorde vient par le désaccord quant à la manière de s'en occuper. Combien il est important d'être sur nos gardes contre les artifices de l'ennemi, de peur qu'il ne prenne avantage sur nous. Versets 12 à 17. Citation de l'Écriture. Or, étant arrivé dans la Troade pour l'évangile du Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'ai point eu de repos dans mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, et aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent à la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. Fin de citation. En Troade, où le Seigneur avait ouvert une porte pour prêcher l'Évangile, l'apôtre avait espéré trouver Tite, qui lui aurait apporté des nouvelles encourageantes des Corinthiens. Ne le trouvant pas, il n'avait pas eu de repos dans son esprit. Aussi, il était reparti et avait poursuivi vers la Macédoine. Là, selon le chapitre 7, versets 5 à 7, il trouve Tite, qui le réconforta par le récit du bon résultat produit par sa première lettre. Le soulagement qu'il avait reçu conduisait l'apôtre à éclater en louanges. Grâce à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ. Quand Dieu conduit, c'est en triomphe. Un triomphe sur les manquements des saints, sur l'opposition des pécheurs, sur les artifices de l'ennemi et sur la pression des circonstances. Mais c'est un triomphe en Christ. Ce n'est pas le triomphe dans la chair, ni par les capacités ou la puissance de l'homme. En outre, dans la mesure où en Christ et par Christ on triomphe des difficultés et des angoisses, quel qu'en soit leur caractère, la douceur et la bénédiction de la connaissance de Christ sont rendues manifestes partout. Ainsi, il est possible de présenter Christ à la fois à ceux qui sont sauvés et à ceux qui ne le sont pas. Cela signifie cependant, pour ceux qui rejettent Christ, la mort, avec l'anticipation d'une mort pire, mais pour ceux qui acceptent le témoignage, cela signifie la vie, avec l'anticipation de la plénitude de vie. Or, si des aboutissements aussi prodigieux que la vie et la mort dépendent du témoignage rendu à Christ, l'apôtre peut bien demander « Qui est suffisant pour ces choses ?» Paul réalisait la grandeur de la personne qu'il prêchait, le besoin profond de ceux à qui il prêchait et l'immensité des enjeux. Il ne faisait pas comme beaucoup qui, déjà en ce jour-là, et combien plus aujourd'hui, frelatent la parole de Dieu ou en font commerce. L'homme qui a peu d'estime dans la parole de Dieu au point d'en faire commerce, prêchant pour gagner sa vie, n'aura guère le sentiment de la grandeur de cette parole, de la solennité des enjeux et de sa propre insuffisance. La ruine le guettera s'il pense que l'éducation humaine, la capacité naturelle et la réussite intellectuelle donnent de la compétence pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Or, la capacité naturelle et tout ce qui vient de l'homme ne donnent de la compétence qu'aux yeux des hommes. Elles ne peuvent donner ni sincérité ni compétence aux yeux de Dieu. La compétence de l'apôtre venait de la part de Dieu, et il prêchait non pas comme un homme cherchant à plaire aux hommes, mais en sincérité devant Dieu, non pas dans la chair, mais en Christ.